résultats sont, se révèlent encore à l'organisation d'une telle journée, le besoin d'en organiser, nos marges de progrès. Je vais commencer par réagir sur la fraternité de 1848, qui était une fraternité à visée universelle, celle de la Troisième République, et notamment celle avant le premier conflit mondial, a été une fraternité qui a modifié la vision de la fraternité dans, dans le récit national, puisque ça s'est très rétréci aux Français restés revenus allemands en Lorraine et en Alsace, et que de fait, après la Première Guerre mondiale, cette notion de fraternité a perdu beaucoup de sa valeur symbolique et de son universalité. Et je salue quand même, vous l'avez peut-être noté, la décision du Conseil constitutionnel à l'été dernier dans sur la question du délit de solidarité, qui revient avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et le Conseil constitutionnel a réaffirmé la nature constitutionnelle du principe de fraternité. Et je pense que c'est un élément important en matière de protection des droits fondamentaux que ce triptyque, que dans ce triptyque, la fraternité retrouve une place qu'elle avait perdu depuis la fin du 19e siècle. Deuxième, un regret, celui qui n'ait pas eu une table ronde sur l'intégration, c'est-à-dire qu'on a eu deux tables rondes sur l'aval, l'accueil, c'était plutôt une journée sur l'accueil. D'ailleurs, l'intitulé de mon poste, quand j'ai été reçu pour ma nomination, j'ai demandé que soit rajouté le mot accueil. Alors, vous ne l'avez pas mis, mais mon titre officiel, c'est délégué international à l'accueil et à l'intégration. J'ai vraiment souhaité que le mot accueil, la question de l'hospitalité, soit précisée dans l'intitulé de ma fonction. Donc, il aurait été utile dans cette table ronde d'intégration d'avoir ce qui a sans doute manqué, qui a ramené un face-à-face, État ou puissance publique, association. Il aurait été utile d'avoir des chefs d'entreprise dans la salle, des réfugiés aussi qui viennent nous témoigner de leur histoire et leur projet surtout, de leur histoire, dans la société française. Ensuite, je pense que tout ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est d'organiser un entourage, une présence autour de la personne qui arrive. Et là, sans doute, on a vu au travers des interpellations croisées, toujours il y a une sorte de défiance, de main invisible qui ferait que les fonctionnaires ou les associations qui exercent une délégation de service public, ce qui est le cas au sujet de l'accueil, il y aurait cette main invisible qui serait mauvaise, qui serait un instrument du pouvoir, de l'État, l'État qui est fantasmé, parce que je rappelle quand même que l'État c'est nous, et que je travaille pour vous. C'est ce que je dis quand je rencontre quelques gilets jaunes qui m'interpellent et qui opposent les uns et les autres. Donc je pense qu'il faut objectiver les problèmes, il faut les dénoncer quand il faut les dénoncer, mais il faut partir de faits objectifs. S'il y a des... j'étais récemment sur la question très concrète de l'enseignement bancaire pour les réfugiés. C'est un vrai problème pour avoir une vie dans la société française. Pour avoir un boulot, il faut avoir un RIB, un compte courant. Bon. Eh bien, il y a beaucoup d'organismes bancaires qui refusent l'accès à un compte bancaire, qui refusent de délivrer une attestation de refus. Et sans cette attestation de refus, vous ne pouvez pas utiliser votre droit de recours devant la Banque de France pour ouvrir un compte bancaire. Donc, moi, j'ai proposé aux associations, je vous financerai pour ça, faites des listings. Quand vous avez un réfugié qui dit à telle agence, à tel endroit, on a refusé l'ouverture d'un compte bancaire, vous l'accompagnez d'un huissier et vous demandez à l'organisme, au conseiller qui refuse l'ouverture du compte bancaire, qu'il le certifie. S'il ne veut pas le certifier, l'huissier certifiera que la banque Intel a refusé de délivrer un refus d'ouverture de compte. Je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, il faut l'utiliser dans un état de droit, même si vous pouvez le critiquer, et encore une fois, moi je le critique aussi, je suis aussi associatif, je préside plusieurs associations dans les champs sociaux, donc je suis aussi dans le travail de plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs publics, mais je considère que le plaidoyer, il a plus de crédibilité s'il repose sur des faits objectifs, et pas simplement de dire... Ce que j'ai entendu une fois de plus, c'est qu'il me fait mal par rapport à l'agent de l'État. penser, encore une fois, que les fonctionnaires de préfecture, que les fonctionnaires en général sont des exécutants de basses œuvres. C'est faux, comme la mise en cause de personnel, d'agents, de travailleurs sociaux qui laisseraient volontairement les courriers avec la préfecture. Là, vous entretenez la théorie du complot, je suis désolé de vous le dire, mais s'il y a des choses qui ne sont pas ni légales, ni éthiquement, qui doivent être condamnées, il faut les objectiver, mais on ne peut pas se balancer des choses à la figure si elles ne sont pas objectives, parce qu'encore une fois, vous faites le jeu contre ce que vous desservez, ce que nous desservons. Je parle un peu cash, mais je suis grand témoin et que je vais partir, j'en profite. Donc, organiser l'entourage. Il se trouve qu'avec Mathieu Klein, chacun était président d'un des groupes de travail de la conférence pauvreté, et co-président, puisque c'était deux, on était deux à chaque fois. Et moi, je co-présidais le groupe de travail sur la situation des personnes en très grande exclusion. Et nous avons proposé une chose très concrète qui a été évoquée cet après-midi pour les MNA à 18 ans. Comment expliquez-vous qu'il ne soit pas possible de se mettre autour de la table dans un département pour anticiper le passage à 18 ans ? Nous avons proposé que dans les 3 mois précédant le passage à 18 ans, on se mette autour de la table tous les opérateurs et qu'on regarde s'il y a une solution ou s'il n'y en a pas pour le jeune qui va passer les 18 ans, dès lors qu'on sait que le jeune a 18 ans. Ce sont des choses extrêmement concrètes. J'ai été directeur des services d'un conseil général de 2 millions d'habitants. Donc je sais comment fonctionne une collectivité locale. J'ai mis en place dans le Val-d'Oise, avec les collectivités et les communes, des mécanismes, c'était il y a 20 ans, donc on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'une loi pour faire ça. C'est simplement se mettre autour de la table, et je constate, et je le regrette, et je vais essayer d'influer pour qu'on retrouve en Meurthe-et-Moselle les conditions d'une meilleure relation entre les uns et les autres, mais je crois qu'il faut quand même... Chacun doit faire un pas et ne pas, encore une fois, être dans une posture de penser que celui qui est en face est un adversaire. Non, il peut avoir des... il faut essayer de comprendre les jeux de contraintes des uns et des autres. Je respecte éminemment, encore une fois, vous pouvez être lanceur d'alerte, mais vous pouvez être aussi proposeur de quelque chose. Pas simplement en train de me dire bon point, mauvais point... Non, enfin, je pense que ça, c'est des méthodes de l'ancien monde. Si vous voulez être dans le coup aujourd'hui, je pense qu'il faut. Je réagis aussi, je ne partage absolument pas Madame Delacroix, c'est ça, sur la place de l'usager. Le discours des cadres du secteur social, je l'entends depuis 20 ans, cette question, depuis la loi de 2002. C'est compliqué. Oui, on peut. Les associer sur des sujets ponctuels. Bon, il se trouve que j'ai été deux fois que j'ai des gains intermissaires. Alors vous direz, vu comment je n'ai pas réussi la première fois, c'est vrai que ça peut être préoccupant pour la deuxième activité. Mais je me suis occupé des sans-abri et des mal logés. J'ai imposé une participation avec des conseils consultatifs des personnes âgées. J'ai obligé les acteurs à accepter et j'ai eu des directeurs d'établissement qui m'ont dit, ton truc, tu ne te rends pas compte, tu vas déstabiliser nos structures. Voilà, ça c'est la réalité aussi. On n'accepte pas de reconnaître l'autre. Vous savez bien que l'usager dans ces situations-là, qu'il soit sans abri, qu'il soit demandeur d'asile, il est en situation d'infériorité par rapport à nous. Notre raison d'être, c'est de le remettre à égalité. On revient sur le deuxième triptyque de la République, qui retrouve cette situation d'égalité. Pot de fer contre pot de terre. Donc oui, il a le droit de s'exprimer. Et la loi de 2002, on le sait tous, très franchement, je vous défie de m'en montrer une application véritablement, globalement positive. Donc moi, je veux que l'usager ait toute sa place, que le réfugié, dans le cadre de contrats territoriaux qu'on est en train de mettre en place, et avec le grand Nancy, il va y en avoir un, il y ait un fonds pour les réfugiés qui puissent proposer des projets pour l'ensemble de la collectivité, de la communauté, du territoire. Il faut qu'ils aient leur place d'acteur. Donc il faut redonner ce place d'acteur. Il faut aussi travailler sur le travail pair et hier, c'est-à-dire mobiliser la richesse du parcours du réfugié et lui proposer un emploi, lui proposer des formations pour qu'il devienne également un intervenant. Là, toutes les sont nombreux sur l'association des personnes qui ont connu les problématiques et qui deviennent intervenants. Ensuite, je pense que on a un rôle aussi de transmission. On l'a bien vu, et on est tous très préoccupés par l'évolution de cette société. Moi, je parle souvent de régression. On n'avait pas pensé, et je pense à Michel Dinet, que j'ai connu étant toujours jeune instituteur à Neuchâtel, un peu plus âgé que moi. Voilà, on est une génération où on n'avait pas imaginé, notre perspective c'était l'an 2000, et on n'avait pas du tout imaginé qu'on pouvait revenir en arrière comme on est en train de revenir en arrière. Donc je crois qu'il nous appartient de transmettre, de faire de l'intergénérationnel. Il manque des jeunes aujourd'hui. Il faut aller à la rencontre de la jeunesse, il faut organiser, je l'évoquais hier soir quand on a dîné ensemble à Toul, c'est de proposer au ministre de l'Éducation d'organiser des travaux collectifs dans les collèges et les lycées pour rappeler c'est quoi le droit international, c'est quoi la Convention de Genève. C'est pas simplement une idée qu'il faut accueillir parce que ça serait éthiquement... Non, c'est parce qu'encore une fois, on est dans un système où on a essayé de construire une protection, de respect de la dignité des personnes, et c'est assis sur du droit, donc il faut le rappeler à nos jeunes. Il faut aussi les mobiliser, c'est pour ça que j'ai lancé un grand programme de service civique avec 5000 missions de service civique pour les jeunes, 2000 cette année donc pour 1500 jeunes français et 500 jeunes réfugiés. Il faut les mettre dans la cité, les réfugiés. Et je salue l'engagement à Nancy, les MJC, les acteurs associatifs qui proposent des missions à des jeunes réfugiés. C'est le meilleur moyen de leur donner un bain dans la société française, ça leur permettra de parler plus facilement français. Et ça leur donnera encore une fois un autre regard et enfin un petit film formidable qu'il faudrait que vous mettiez sur le site avec beaucoup d'humour. Et 1500 jeunes, ce qui me paraît formidable parce qu'il faut terminer sur quelque chose de positif dans un environnement encore une fois plutôt sombre. J'ai lancé avec une petite structure de communication qui travaille avec les jeunes une campagne de communication sur le service civique pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Nous avons eu 250 000 vues sur cette campagne et 1700 promesses ou intérêts marqués par une mission sur des actions pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc ça, pour moi, c'est super parce que ça veut dire qu'on a une jeunesse et qu'on a des jeunes qui sont prêts à s'engager sur des thématiques d'intérêt général. Je pense que c'est formidable. Le travail que j'ai engagé avec les métropoles de Nancy, je vais signer 10 contrats territoriaux d'accueil et d'intégration des réfugiés avec 300 000 euros par an sur la durée du quinquennat pour organiser mieux l'accueil et l'intégration des réfugiés dans les territoires métropolitains. Il y aura aussi des crédits pour les autres territoires. Donc, regardez sur le site de la délégation si vous voulez avoir plus d'informations. C'est facile à joindre, c'est alain.regnier@intérieur.gouv.fr. Donc voilà, vous avez mon adresse mail. Si vous avez des choses à me dire, vous pouvez le faire et je vous répondrai dans la mesure du possible si c'est des choses très concrètes. Donc essayons encore une fois de 35 ans d'expérience m'amène à dire que je regrette d'avoir participé aujourd'hui à une réunion auquel on est toujours dans la difficulté d'accepter de se parler sans avoir un a priori. Combien de réunions à laquelle je participe ou que j'organise, dans lesquelles je peux écrire le communiqué de fin de réunion avant la tenue de la réunion. Voilà. Donc si on veut que ce pays qu'on aime bouge et qu'il reste accueillant, hospitalier, il faut peut-être se secouer un peu, accepter de s'entendre et puis de dire que personne n'a le sait. Enfin, voilà, on cherche tous, on doute, mais on doute dans un cadre juridique qui est quand même qu'il faut préserver, qui est celui de protéger. Alors il y a des menaces qui pèsent, oui c'est vrai qu'il y a un certain nombre de lois, il y a trop de textes, donc il y a beaucoup de textes qui peuvent nous préoccuper en tant que citoyens, mais ils sont votés par le Parlement français. Ils sont votés par des gens qui sont élus au suffrage universel. Donc je reviens à ma discussion de ce matin, si vous ne voulez pas que des partis populistes arrivent par le suffrage universel, ce qui a été le cas en Allemagne en 1933 ou dans d'autres pays, il faut à ce moment-là que nous incitions tous les Français à voter, que nous fassions à la Obama des appartements, un étude également, et aller voir l'ensemble des Français et leur dire pensez bien avant de voter à toutes les conséquences et en même temps, proposer des choses, ne soyez pas uniquement dans la CAF au fond, ça ne va pas. Parce qu'effectivement, on a bien le gêne de toujours être en train de se poser la question. On va faire autrement. Voilà, merci de cette journée. Et puis, je pense que ça amènera peut-être d'autres sur l'intégration, sur d'autres sujets. Et puis, encore une fois, je ne peux qu'espérer que vous parliez un peu plus. Et surtout, que vous construisiez des projets.
Une des prochaines, parce qu'on l'a limité là, ça va être sur les
questions de la formation et de l'intégration. Discuter avec le réseau des CFA, par exemple, on voit bien qu'il y a des maillons, des maillages à faire avec tous ces gens-là, il existe beaucoup de choses. Mais si on n'a pas les interfaces sur ces questions, et donc une des perspectives, c'était prévu dans cette journée, on voit bien déjà que comment sur la question de l'accueil, il y a, même si c'est, on a toujours l'impression de recommencer, mais d'avoir des espaces pour y réfléchir. Et je pense que sur la question de. Et après l'accueil, comment on engage les parcours, et notamment avec le champ des entreprises, et puis tous les outils qu'on peut avoir, ça va être ça. En tout cas, merci beaucoup de cet éclairage. Et puis, je vais demander au Dr. Bénier, Jean-Marie Altifès, qui sera aussi sur notre site. N'hésitez pas donc à laisser vos coordonnées si vous voulez recevoir Citact Info, à visiter notre site, et pourquoi pas à adhérer.